secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Lilian Var, réalisée par Clotilde Pivin et préparée par Thierry Beauchamp. Aujourd'hui, nous recevons Rutsi Erguner. Rutsi Erguner, qui est un virtuose du ney ou de la flûte de roseau turc, mais aussi un érudit du soufisme et de l'islam spirituel, héritier de la longue et très belle et riche tradition de ce qu'on appelle en Turquie les Mevlevi, ou pour nos auditeurs qui ne sauraient pas qui sont les Mevlevi, ce sont les héritiers en fait de la pensée, de la pratique, de la musique, de la philosophie, de la spiritualité du grand poète de langue persane Rumi, qui a vécu et qui est enterré à Konya, en Turquie actuelle. Bonjour Rutsi Erguner.
Bonjour, bonjour. Vous êtes bienvenue chez moi.
Et merci beaucoup de nous recevoir autour d'un thé turc, ici, dans cet appartement qui est le lieu de votre vie maintenant que vous vivez à Paris. Mais je voudrais commencer en fait par cela. Est-ce que à Paris vous êtes un exilé ou est-ce que vous êtes un Parisien convaincu?
Enfin, pour ma part, moi, je suis convaincu que nous sommes exilés dans ce monde, même si on est en Turquie, ou en France ou ailleurs. C'est que comme Rumi, le Kadesesevlu, nous a enseigné, ce monde n'est pas vraiment notre place. En tout cas, c'est un exil, quoi qu'il soit.
Oui, et c'est d'ailleurs, vous faites souvent allusion dans votre œuvre, en particulier dans l'ouvrage qui m'a servi de fil rouge, en fait, pour préparer cette émission, La flûte des origines, un soufi d'Istanbul, publié chez Plon dans la collection Terre humaine. Et souvent, ça s'appelle Terre humaine, mais souvent dans ce livre, vous faites allusion au fait que, finalement, il y a beaucoup d'images, d'ailleurs, dans le soufisme, qui représentent ce monde comme une terre d'exil. Alors, comment vous êtes arrivé à penser cela?
Non, c'est vrai qu'il y a deux sources. Ce que nous recevons comme transmission des personnes qu'on a connues, des ouvrages qu'on a lus, mais il y a aussi des convictions, des certitudes qui se forment petit à petit grâce à une certaine expérience de la vie. Donc, pour moi, ces paroles, ils sont à la fois de sources de transmission, mais aussi à la fois de mes convictions dues à une certitude que j'ai acquise durant ma vie.
Alors, comment avez-vous acquis petit à petit cette certitude depuis votre enfance?
Vous savez, on a eu un maître qui disait une chose qui est très exacte pour moi. Il disait que c'est les relations entre le maître et disciple, c'est comme une relation d'amour où on pénètre par les oreilles, mais on fait un enfant dans le cœur. Donc c'est vrai que les paroles qu'on entend, bon, il y a des gens qui entendent mais qui n'écoutent pas ou qui n'ont aucun effet de ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont lu. Il y a d'autres qui sont un peu plus sensibles ou qui sont beaucoup plus sensibles de ce qu'ils entendent, ce qu'ils disent. C'est pareil même pour toute autre vérité qu'on entend mais que ça ne fait aucun effet. Vous savez, par exemple, dans le Mesnevi, il y a ce passage que j'adore à propos de Jésus qui courait et puis un homme qui l'a reconnu qui court derrière lui, il lui dit « Mais de quoi tu as peur? Pourquoi tu t'enfuis ?» Et n'étais-tu pas la personne qui a pris une poignée de la terre et qui a dit quelque chose, qui a soufflé et qui est devenu un oiseau? Tu étais aussi la personne qui a dit quelque chose à l'oreille d'un cadavre qui s'est ressuscité. Et Jésus lui répond, il dit, mais justement, la même chose que j'ai dit à l'oreille de ce cadavre qui a ressuscité, j'ai dit à quelqu'un de ce village, ça lui a fait aucun effet. Donc c'est vrai que le problème humain, c'est qu'on entend beaucoup de choses justes et vraies, mais cela ne fait pas d'effet réel en nous. C'est pas seulement entendre, il y a beaucoup d'expériences de la vie, donc il faut les prendre comme une leçon. Mais on ne prend pas. Donc c'est vraiment une éveil qui fait que les choses qu'on entend, qu'on lit ou qu'on vit, ça prend un sens parce qu'on a d'un coup on a un clic ou une grâce peut-être qui fait que les choses prennent un autre sens.
Alors justement, le déclic ou la grâce, comme vous dites, vous l'avez vécu finalement plusieurs fois au cours de votre vie et en particulier dans votre enfance. Alors vous avez parlé de la transmission du maître, Et vous évoquez ces maîtres de votre enfance et surtout ces expériences de votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première, celle qui vous mène à ensuite aller dans une mosquée, rencontrer un maître dont vous ne connaîtrez même pas le nom, et qui finalement est presque une sorte de moment inaugural de cette expérience dont vous parlez, qui est l'intériorisation de la parole du maître.
Mais d'abord, il faut que je vous dise, je suis chanceux par rapport à beaucoup de Turcs de ma génération, de Istanbuliotes de ma génération, parce que la Turquie, quand même, a vécu une période de table rase. Donc, on ne peut pas le comparer avec la révolution culturelle chinoise, mais c'est presque ça. Donc, dans cette période qu'on a tout effacé, et des choses, des traditions de l'époque précédente n'étaient pas d'actualité, surtout pas pour des jeunes comme nous. Donc, pour moi, c'était une chance par le fait que ma famille faisait partie d'une communauté, que donc j'ai pu, me trouver là-dedans en lien avec ça. Mais ce que je voulais dire, c'est pas seulement parce que je me suis trouvé dans ces lieux, mais il y a eu aussi quelque chose de personnel à moi, malgré mon âge. C'est que, bon, d'abord, j'étais sensible à la musique, donc j'écoutais un jour dans les Zavias un homme qui chantait.
Oui, expliquons peut-être à nos auditeurs ce que c'est qu'une Zavia.
Une Zavia, c'est en arabe, ça veut dire l'angle. C'est un coin où les gens se réunissent. Donc, il y a plusieurs mots, il y a le tekeh, il y a le derga, haniga, etc. Donc, c'est chaque... cette année aussi, parce que ce sont des terminologies soufis, si vous voulez, mais chacun désigne quand même un lieu qui a des qualités particulières. Par exemple, si on dit Asitane, ça veut dire qu'il y a une communauté qui vit dedans, avec le mausolée d'un maître. Si on dit Tekie, c'est un lieu de réunion. En Zavia, c'est aussi c'est un coin de réunion. Donc, il y a eu un homme qui a chanté, qui m'a beaucoup touché, ces chants. Donc, j'étais vraiment... Peut-être j'avais 11-12 ans, donc ça m'a tellement touché. Et comme beaucoup de jeunes de mon âge, bon, j'ai séché l'école, et puis au lieu d'aller faire autre chose, je suis allé à la mosquée. Donc c'était pas très original pour les gens de ma génération. Et donc, c'est là que j'ai rencontré ce vieux monsieur qui m'avait l'air d'être plutôt un mendiant que quelque chose d'autre. Et le pauvre, il voulait m'expliquer que je faisais des erreurs en faisant mes prières, quoi. Donc, c'était pas conforme à la tradition. En fait, donc, il y a eu une relation comme ça. C'est installé entre nous et il m'a appris plein de choses. Mais un jour, il a disparu. Donc, si vous voulez, c'était parmi d'autres personnes que j'ai eu le plaisir et les joies et le bonheur de rencontrer. Cet homme, il m'a quand même éveillé en moi une idée du sacré, une idée de prière, alors que j'ai baigné dedans. Donc, alors, c'était deux expériences. Une que je vivais avec mes parents, et puis l'autre, c'était mon expérience personnelle.
Oui, et alors ça se passe donc à peu près au milieu des années 60.
Oui.
Vous êtes encore enfant. Et c'est quand même une période très difficile pour vos parents, pour tous les gens que fréquentent vos parents et qui effectivement fréquentent ce que vous appelez la teke, qui est précisément un lieu où les soufis, ici inspirés par donc, la pensée de Rumi et la poésie de Rumi, se retrouvent. Mais c'est une époque extrêmement difficile parce que vous dites vous-même que c'est des mots que vous n'aviez pas le droit de prononcer. C'était dangereux de parler de teke, de maître spirituel, de cheikh, puisque en fait, si j'ai bien compris... Finalement, l'avènement de Kemal Atatürk, les confréries soufis ont été fermées comme étant des lieux d'arriération culturelle.
Voilà. Ça date de 1925, donc une loi qui est donc codifiée le 163, qui interdisait toute réunion religieuse, toute activité liée à la tradition soufie et aussi tout titre qu'on pouvait porter en lien à ça. Donc, il était impossible de se réunir comme cela a été avant. Donc, les lieux, les tekiés, les avias ou les dergas, ils ont été tous confisqués par l'État. Ceux qui avaient une grande salle de réunion, donc, ils ont été transformés en mosquées. Ceux qui n'avaient pas, ils ont été loués à des personnes ou transformer, par exemple, comme orphelinat ou d'autres activités qui n'avaient rien à faire avec ça. Donc, tous ces gens-là qui vivaient dedans, ils se sont trouvés dans la rue. Et enfin, pour vous dire, selon une thèse de doctorat qui a été faite en 1910, on avait à Istanbul 700 Zaviens, à Istanbul seul. Donc, pour une ville qui avait à peine 1 million d'habitants, 700 Zaviens, ça fait pas mal. Donc, ça indique quand même qu'une grande partie de la population était liée à une confrérie différente. Donc, il y avait pourtant, Dieu sait, plusieurs confréries portant des noms différents, avec des courants différents. Donc, une telle tradition aussi importante n'était pas si facile à effacer d'un jour à l'autre. Donc, alors, ce qui se passait, ces gens-là, qui se trouvaient dans les rues, ils allaient dans des cafés ou dans... chez les libraires, où on s'assied autour de la personne, parce qu'on savait que tel jour, X jour de la semaine, il allait venir là-bas. Donc, nous, les jeunes, on profitait de ces personnes un petit peu en dehors d'un contexte qui était le Zavien. Mais il y avait quand même un à Istanbul qui est resté un petit peu loin des yeux, parce que c'était un petit peu dehors, en dehors de la ville. Aujourd'hui, évidemment, c'est en plein milieu, mais à l'époque, c'était quand même loin des yeux. Et donc, ce lieu qui a été loué par les derniers maîtres de Zavien comme locataire à l'État. Et donc, les réunions continuaient d'une manière assez prudente, si vous voulez, parce qu'à tout moment, on pouvait avoir des policiers qui arrivaient, etc. Donc, il y a eu plusieurs légendes. Par exemple, une fois, il y a eu des policiers qui sont venus et le cheikh, ils étaient en civil, donc ils ne savaient pas. Il a cru que c'était des jeunes disciples qui sont venus, il les a envoyés à casser de bois pour les cheminer. Et donc, ils ont fait sans poser la question. Donc, il y avait plusieurs légendes comme ça, mais malgré cela, par exemple, le cheikh, il avait dans son frigo une bouteille de harak. Si jamais il y avait une descente par les policiers pour pouvoir dire, on fait une dîner entre copains, vous voyez, on boit même du raki, on n'est pas des soufis ou des religieux. Donc c'était difficile, c'était compliqué, mais peut-être mieux que ce qui est maintenant.
En quel sens mieux que ce qui est maintenant? Parce que c'est vrai que, au fond, ce que vous montrez, c'est que c'était peut-être de la clandestinité, mais c'était une spiritualité extrêmement vivante. Alors que maintenant, c'est peut-être autorisé, mais c'est autorisé sous la forme, sur une forme folklorisée, qui a donc perdu sa substance, si je vous ai bien compris.
Il y a deux choses. Il y a certaines choses qui sont folklorisées, certaines autres politisées, et certaines autres, c'est devenu une sorte de, comment dirais-je, une revendication. Un revanche de l'époque passée, mais la sincérité qu'on a eue dans ces périodes est disparue. Pourquoi? C'est très complexe à expliquer, mais avant tout, je voulais dire que cette loi de 1925 existe toujours, elle n'est pas abolie. Donc l'État, quand il veut, il peut toujours mettre les gens en prison parce qu'ils se réunissent pour une raison religieuse. Mais bon, évidemment, c'est toléré, comme vous le dites. Alors, il y a plusieurs phases des choses. Il y a des confréries qui, aujourd'hui, répondent en quelque sorte aux besoins occidentaux. Parce que, comme vous savez, que la Turquie, il a été un des premiers pays musulmans sécularisés, occidentalisés. Donc, il a une longue histoire d'occidentalisation. Donc, il est normal que dans les milieux urbains, il y a quand même plusieurs couches. Des gens, plusieurs générations qui ont été élevés avec une culture occidentale. Donc maintenant, il y a quand même une réislamisation du pays, un retour qui commence. Donc comment réconcilier maintenant une religion comme l'islam avec une modernité sous forme d'occidentalisation qu'on vit aujourd'hui? Donc évidemment, le soufisme, ça fait un pont idéal. Surtout les soufismes importés de l'Occident. Donc, c'est-à-dire des écrivains américains ou anglais ou français qui disent des choses sur Rumi, etc. On dit, ouais, c'est plus scientifique parce que ce sont des Européens qui l'ont dit. Et donc, ça fait plus d'effet. L'Inde, il a vécu la même chose avec ses ashrams. Je vous dis, l'hindouisme ou le yoga vit grâce à l'intérêt aux Européens. Tous les ashrams sont dirigés par des Anglais ou des Allemands en Inde. Donc, on vit la même chose. Il y a cette phase-là, donc, que j'appelle pas New Age, mais enfin, c'est une réconciliation possible d'une modernisation avec un islam un peu farfelu, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Et je dis farfelu parce que ce n'est pas basé vraiment théologiquement, c'est pas justifié. Puis de l'autre côté, il y a cette revendication politique parce que l'islam dans notre pays, il prend aussi une dimension politique, il est sur scène politique ouvertement, alors que ce n'était pas possible avant. Depuis la République, parce que la République et c'est revendiquer une laïcité. Donc dans cette laïcité, il n'était pas possible qu'il y ait un parti qui prétende de représenter les musulmans ou avoir une face de politique de l'islam. Mais malgré cela, ce sont les musulmans du pays qui soutenaient la politique, surtout des partis dits entre guillemets démocratiques, c'était des votes de musulmans. Mais pas au titre de l'islam, mais c'était au titre de centre. Enfin, gauche, c'est pas gauche, c'est pas droite, mais c'est le centre. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, la Turquie est dirigée par une partie qui se revendique de l'islam. Donc, on a compris la puissance de version politisée de l'islam, et du coup, il y a aussi des communautés dites, entre guillemets, soufis, où peut-être ils font leur vitrine sous nom de soufisme, pour justifier un islam politisé. Ça existe aussi. Nos dirigeants depuis 1980, ils ont été des Naqshbendis ou des soufis, entre guillemets, des holdings qui ont été créés. Donc il y a aussi le problème de réconciliation avec le capitalisme le plus sauvage possible, les sociétés de consommation, et les soufis vont dire, on pensait que c'était pas possible, mais ils ont trouvé la solution, n'est-ce pas? Donc, je sais pas comment, mais ça a l'air de marcher. Et donc, toutes ces situations paradoxales, c'est trouvent leur justification avec le soufisme. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi les vitrines, disons, d'identité culturelle, ou le folklore du pays, qu'on va représenter à aux Européennes. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'elle vit, mais on va le présenter à l'extérieur. Si vous voulez, il y a eu un renversement, parce que moi, j'ai participé à toutes les cérémonies de Dervish Tourneur depuis 1970, qui a eu au Théâtre de la Ville ici, à Londres, en Amérique. Donc, il y a eu toutes ces rencontres avec l'Occident à travers ces représentations. Mais notre revendication, c'était... Enfin, quand j'ai dit, j'étais jeune à l'époque, mais ce que j'entendais de mes aînés, leur revendication, c'était pas de dire, voilà, nous sommes des maîtres spirituels, venez devenir notre disciple. Mais on disait, il y avait quand même un héritage culturel, il est injuste de le jeter dans la poubelle. Donc, il y a la musique, il y a eu des musiques de cérémonie composées qui sont des œuvres quand même extraordinaires, parce que dans le contexte du maqam, ce sont les seules formes qui dure une heure durant, il y a une composition qui ne sont pas des petites chansonnettes quand même, c'est comme des requiems ou des cantates de la musique occidentale. Donc tous ces héritages, la littérature, la poésie, l'expérience artistique, etc., donc on ne pouvait pas les l'ignorer. Donc notre revendication restait sur ce plan culturel. Cette revendication a servi au tourisme. Donc, Et l'État a bien compris ça. Donc, on a renversé la chose. On a mis la culture au service du tourisme. Au lieu de servir de tourisme pour faire vivre la culture, on a fait l'inverse. Donc, tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est une folklorisation, c'est horrible. Et moi, personnellement, je regrette vraiment cette période où on était dans la clandestinité, mais on était dans la sincérité.
Thank you.
parlez beaucoup de la bienveillance de tous ces maîtres qui vous ont enseigné, chacun à sa façon, chacun vous a enseigné un aspect de cette spiritualité qui maintenant, en fait, vous habite et que vous exprimez à travers votre instrument, donc le ney, dont vous avez reçu aussi la tradition et la façon, enfin, la, oui, on va dire la tradition, mais vous allez peut-être me corriger, de votre père, qui était lui-même un très grand joueur de ney, sachant que les joueurs de ney dans cette tradition donc autour de Rumi sont très très considérés, puisque, dit-on, donc le poète Rumi avait considéré le ney comme étant vraiment l'instrument de prédilection par excellence qui lui faisait penser à sa patrie d'origine et à sa situation d'exil dans ce monde. On y revient. On revient à ce que vous disiez au tout début de cet entretien. Donc, finalement, cette spiritualité, mais aussi l'islam, d'une certaine façon, vous l'avez reçue de la part de votre père à travers cet enseignement du ney. Alors, comment ça s'est fait et pourquoi le ney?
Bon, je pense qu'il y a un point important à dire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Rumi, ça devient une personnalité centrale pour, disons, résoudre le problème du monde entier, le monde spirituel du monde entier, ou les mots qu'on a de la modernité. Évidemment, si on lit le début de Masnavi, écoute la flûte en roseau...
Précisons pour nos auditeurs que le Masnavi auquel vous faites allusion depuis le début, c'est la grande œuvre, c'est une grande œuvre en vers qui est en fait l'œuvre didactique de Rumi, donc composée dans la deuxième partie de sa vie.
Si on prend ces distiques du début de Masnavi, là on peut dire, voilà, c'est beau, c'est magnifique, on écoute la flûte et puis on est dans la spiritualité. Là, il y a quand même une méjaz. Ce qu'on appelle le méjaz, c'est d'expliquer quelque chose par le connu et pour faire comprendre ce qui est inconnu. Donc, Rumi parle de ney parce qu'à l'image d'un homme qui sera ce qu'on appelle l'insan karamil, un homme de maturité, correspond à souhait du divin quand il a créé l'homme, n'est-ce pas? Donc, comme on dit, asen et tachvimin, c'est-à-dire on a créé l'homme avec une beauté extraordinaire. Mais l'homme, dès le départ, il faut qu'il fasse un voyage pour aller vers ça. Donc il est né avec ce potentiel, mais il n'est pas forcément ce qu'il devait être. Donc ce qu'on appelle l'homme de maturité, c'est celui qui a avancé plus que d'autres, parce que c'est un chemin sans fin. Donc pourquoi? Parce que le roseau, comme vous voyez, là j'ai une ici devant moi, vous avez des séquences dans le roseau. Donc tant que ces séquences qui sont des voiles, ce qu'on appelle de perde, des voiles qui existent dedans, on ne peut pas faire un son. Donc ce qu'il faut faire, il faut nettoyer dedans. Nettoyer dedans, c'est se fait avec une tige d'un métal qu'on chauffe, on brûle à l'intérieur. Et donc de ce fait, le roseau devient disponible au souffle de son joueur, ce qu'on appelle naizen. Et après, on fait des trous pour faire des mélodies avec. Dans cette métaphore, l'homme, il est un peu comme le ney, comme le bout du roseau. Il a aussi dans son nefs, dans sa nature, dans sa petite nature, il a plein de voiles. Il faut que ces voiles soient déchirées, enlevées, pour qu'il puisse être disponible à une inspiration plus élevée que sa petite nature. Donc le ney, ce sera donc l'homme qui est disponible à une inspiration élevée, et le neizen, ce sera Dieu lui-même. Donc c'est le souffle divin qui vient. Et donc toutes les métaphores du début de Masnavi, qui est donc le premier 18 distiques de Masnavi, qui est d'ailleurs le seul poème écrit par le maître de Rumi. Les autres ont été dits. Et donc qui constitue quand même toute une source d'enseignement, une source d'inspiration. Alors quant à moi, j'ai appris ça par mon père, comme vous dites, qui était un joueur du ney. Moi, je suis le cinquième même d'une lignée de joueurs du ney dans ma famille. Bon, évidemment, je peux être fier de ça, mais en réalité, je préfère que ce soit mes ancêtres soient fiers de moi. Donc, il faut renverser les choses. Mais j'évoque ça pour une nécessité, parce que si mon père, il n'était pas un joueur du ney, comme beaucoup de ma génération, je n'aurais jamais l'occasion de savoir de l'existence de cet instrument. Première chose. Et la preuve que de ma génération, nous sommes deux joueurs de ney. Alors qu'aujourd'hui, à Istanbul, seulement 75 ateliers qui fabriquent de ney pour les vendre. pour vous dire le changement qui est renversement de la situation. Donc, il est important pour moi de dire que j'ai appris par mon père, parce que ce n'était pas une démarche personnelle à moi, c'était une grâce, une chance que j'ai eue. Et cet instrument, il est aussi un instrument de la musique savante ottomane, ou de la musique savante de tout Moyen-Orient, hein, donc c'est pas seulement réservé aux Turcs. Moi, j'aime pas nationaliser l'héritage culturel, parce que c'est une question de civilisation. Ceux qui n'habitent pas cette civilisation, ils en font partie, pour qu'ils soient leur race ou leurs origines. Pour moi, il ne s'agit pas des Français et des Turcs, mais il s'agit d'une civilisation qu'on apprécie, on vit avec. Donc, cette musique est très riche, hein, on peut évoquer une centaine de milliers de compositions qui peut aller jusqu'à Al-Farabi au Xe siècle, en passant par des répertoires, comme je vous ai dit, composés pour accompagner les cérémonies des derviches sous les paroles de Rumi. Il y a ce qu'on appelle des ilahi, avec des poèmes des autres soufis qui sont chantés dans des réunions intimes. Il y a des formes de composition qui viennent depuis Abdulkadir Merali du XVe siècle, du palais de Herat chez Tamerlan. Donc c'est vraiment une question très vaste. Mais évidemment, comme le ney est devenu tellement symbolique de ça, même si on joue une œuvre de musique classique, on dira c'est la musique soufie. Bon, on peut écouter à la façon soufie. Personnellement, moi je nie le fait qu'il y ait une musique soufie, mais il y a des soufis qui ont apprécié la musique d'une façon bien spécifique.
Pour vous, il n'y a pas de contradiction entre le message de l'islam et ce que vous pratiquez et que vous entendez dans la musique?
Bon, évidemment, pour être modeste, je ne sais pas à mon échelle de résoudre un tel problème. Ça, mais je peux vous évoquer quand même ce qui était le débat toujours qui a existé. C'est un débat qui a existé depuis très longtemps, depuis le début de l'islam presque. Ghazali qui a essayé de défendre ça, Rumi aussi, il a été accusé. D'ailleurs, il y a une anecdote chez Eflaki qui a écrit la hagiographie de Rumi et de son père. Là-dedans, il y a une anecdote comme quoi il y a un théologien qui vient lui dire, il dit, mais enfin, tu es quand même pourtant un homme bien, tu respectes la foi, tu n'es pas un hérétique, mais qu'est-ce que c'est que cette chose que tu aimes écouter, qu'est-ce que tu entends par cette musique, quand même, c'est pas juste, ça m'étonne. Et Rumi, il dit, quand j'écoute ça, j'entends les grincements de la porte de paradis s'ouvrir. Et lui, il dit, mais enfin, pourtant, moi, j'écoute aussi, mais pourquoi je n'entends pas la même chose? Il dit, si tu entends les mêmes grincements, mais quand les portes se renferment sur toi. Donc, pour vous dire que ça dépend comment on prend les choses. C'est-à-dire, l'idée religieuse stricte, il se méfie de tout. Tout peut être péché. Si vous voulez, nous avons les mains, on peut voler avec ça. Donc, on peut aussi donner des aumônes, donc faire un acte de prière. Donc, c'est pas pour autant on va couper par précaution les mains pour ne pas voler, n'est-ce pas? Ou on peut dire des blasphèmes avec notre langue, on va pas couper notre langue parce que... ou avec nos yeux, on peut faire des adultères si on veut, mais c'est pas pour autant on va crever nos yeux. Donc, si vous voulez, le source même du péché n'est pas dans les objets extérieurs à nous, c'est en nous. Donc, le tasavvouf, c'est une éducation pour arriver à un tel point que tout se transforme à un acte de prière, à un acte de volonté plus élevé que les choses si bas. Et donc la musique en fait partie. On peut évidemment écouter la musique pour une distraction, pour oublier quelque chose, alors que on peut l'écouter aussi pour se rappeler ce qu'on ne devait pas oublier. Donc c'est relatif. C'est pour ça que j'ai dit que la musique soufie n'existait pas en soi, mais il existe des soufis qui ont écouté la musique. Donc, c'est vrai, c'est très difficile quelle est l'intention, c'est comment elle est vécue, comment elle n'est pas vécue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, le renouveau de l'islamisation de notre pays fait qu'ils font des mariages et ils invitent des derviches pour faire le sema. Donc, les mariages, c'est un moment qu'on doit exposer des joies. Mais là, qu'est-ce que ça a à faire de... Donc, on change le contexte des choses parce qu'on veut sacraliser, mettre une étiquette religieuse sur toute chose pour pouvoir le consommer. Donc, dans ce cas, on peut écouter aussi le Coran comme de simples conseils et non pas comme un texte sacré. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le niyat, l'intention de l'homme qui transforme les choses à une valeur juste ou bien une valeur tout à fait le contraire de ce qui est désigné. Donc, et la musique est un art par excellence qui peut facilement être détourné de son sens profond.
Vous écrivez, par exemple, « Le soufisme pour moi est une façon de vivre la foi de manière qu'elle devienne partie intégrante de nous-mêmes. » Et on est là finalement au cœur à la fois du soufisme, mais aussi de la spiritualité de l'islam. Et je vois que vous avez ici dans un tableau assez extraordinaire dans ce salon où vous nous recevez. Dans un seul tableau, la totalité du Coran a été écrite. Et ça me fait penser à cela, c'est-à-dire que d'un coup, la totalité du Coran peut être contenue dans un seul tableau, comme il peut être contenu, au fond, dans votre cœur ou dans les notes de votre musique.
Oui. Vous savez, il y a un passage du Coran qui dit que si les océans étaient ancres, ne suffiront pas à écrire la parole divine. Alors que ça, comme vous voyez, sur une seule feuille, on peut écrire le tout. Et pour moi, ce que je comprends de ce qui m'a été enseigné, et je suis convaincu de ça, le Coran, c'est une clé de lecture. Elle donne la possibilité pour qu'on puisse donner un sens juste à ce qu'on vit, ce qu'on peut vivre. Et donc, il y a une volonté de rendre la vie religieuse dans le temps présent. Donc l'islam, ce n'est pas une religion du passé ou ni du futur, c'est du temps présent. Et comme la musique, elle est pour moi. La musique aussi, c'est pas un rappel d'un répertoire du passé. Et ça doit être le temps présent parce que je dois le vivre quand je joue. Et sinon, je peux pas le communiquer. Je peux pas le communiquer en tant que juste une pièce d'art, mais comme une chose que je le vis moi-même. Donc le Coran est aussi la religion pour moi. L'idée de religion ou de spiritualité est une chose du temps présent. Et donc c'est pour ça que la musique ou les choses dites, il faut qu'elles correspondent au moment vécu, à ce qu'on vit réellement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on trouve à une époque de l'histoire humaine que toute vérité a été dite. Personne ne peut rajouter un point de plus ou un virgule de plus. Donc tout ce qu'on fait, on parle à propos de ça, ou on rajoute des expériences personnelles, mais ça peut pas aller plus loin que ce qui a été dit. Donc la barre est à son niveau le plus haut. Maintenant, ce qui nous manque, ce sont des gens vrais. Pas de paroles vraies, mais des hommes et des êtres humains qui sont vrais. Donc c'est ce manque-là qui fait que les choses n'ont pas d'effet. On écoute à la radio maintenant ou à la télévision, c'est très courant en Turquie, on a de 24 heures sur 24 des gens qui font des prédications. Ce qu'ils disent, c'est juste, c'est très beau, mais ça ne fait pas d'effet. Parce qu'on voit déjà dans ce personnage que ce qu'il dit, ce n'est pas lui. Mmh. N'est-ce pas? Donc, c'est notre siècle est en manque de ça. Est en manque de ça, et c'est pour ça que le danger du soufisme, parce que les gens qui cherchent un maître soufi, ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais ils vont s'attacher aux premières personnes qui prétendent l'être. Donc, et c'est aussi un vide. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses justes, qui jouent de la musique très touchante, mais ils ne sont pas touchés eux-mêmes de ça. Donc, ils sont des transmetteurs, si vous voulez. C'est un peu comme un robinet. Mais ça n'empêche pas qu'on profite de ça. Et ça aurait été encore mieux que cette personne qui transmet cela, il profite aussi de ce qu'il transmet, mais c'est son problème personnel. C'est pas le problème de ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent. Ça, c'est encore une autre chose. Donc, c'est pas une obligation, parce qu'on peut aussi être un grand musicien, être un idiot, un sot, ou être un grand spirituel, mais qui sait pas jouer, ou qui sait pas parler. Donc, ce n'est pas du tout une obligation que celui qui dit, qu'il soit à la hauteur de ce qu'il dit. Mais, évidemment, l'effet devient plus juste. Vous savez, par exemple, on a dans le Teskilit Levliya de Hattan, il y a ce passage qui dit, on a posé une question à un Veliullah, un intime de Dieu, à propos de Fakr, de la pauvreté. Il n'a pas répondu, on a insisté, il n'a pas répondu. À un moment donné, il a quitté, il est revenu, il a commencé à faire un magnifique discours sur la pauvreté, sur le Fakr. Et on lui a dit, mais pourquoi tu ne nous as pas répondu tout à l'heure? Il dit, j'avais un peu d'argent dans ma poche, je ne pouvais pas parler de Fakr, de la pauvreté, tant que j'avais ça. Donc je suis sorti, j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux donner cet argent, et maintenant je peux parler tranquillement là-dessus. Vous voyez, donc, c'est une éthique qu'on doit avoir si on prétend quelque chose. Il faut être à la hauteur de ce qu'on prétend.
Et c'est aussi le sens de l'enseignement de votre père, qui vous enseigne la musique, mais qui vous enseigne peut-être encore plus que la musique, l'éthique de la musique et l'éthique spirituelle héritée de la tradition, on va dire soufie, pour faire court.
Oui, parce que pour l'ancienne génération de la confrérie, il ne s'agissait pas seulement de former quelqu'un qui avait le savoir-faire d'un art, mais qui était là, cette harmonie elle-même, n'est-ce pas ? Donc l'enseignement était une nécessité pour l'art, comme une source d'inspiration. En même temps qu'on devait apprendre la façon de faire, il fallait aussi être ce qui est digne de ça. Mais effectivement, on peut concevoir aussi la musique en tant que musique. Le ney, on peut le considérer en tant qu'un instrument de musique. Par exemple, dans le monde arabe, on fait danser des danseuses de ventre avec le ney. Bon, chez nous, on fait tourner les derviches. Bon, et pourquoi pas? C'est une question de considération relative. C'est-à-dire, l'instrument en soi ou la musique en soi, il n'est ni sacré ni n'est pas sacré. C'est l'homme qui doit être lui-même dans la conscience du sacré. Parce que l'art consiste à trouver de bons rapports entre les choses. Et donc, cette harmonie, cet équilibre, il est aussi nécessaire pour l'homme dans sa vie quotidienne. Donc, cette formation était nécessaire, pas seulement dans l'émission de son, ou dans la calligraphie, ou dans les miniatures, ou dans les beaux-arts, mais aussi que la vie en soi soit une harmonie équilibrée. Il faut quand même souligner que la confrérie Mevlevia, dans l'époque ottomane, jusqu'à donc, l'abolition des Zaviens, a produit quand même les hommes les plus raffinés, les plus élites de notre société. Pour vous donner le dernier exemple, qui est Ahmed Avni Kunuk, qui était un simple disciple, hein, c'était pas un cheikh ou maître, toutes ses prétentions n'existaient pas. Et cet homme, il a écrit un commentaire de Fusus Hikem d'Ibn Arabi en arabe, en langue arabe. Il a écrit un commentaire de Mesnevi, 34 volumes, en ottoman, mais traduit de farsi. Il a écrit des ouvrages en langue persane. Il a été un grand musicien. Il a inventé un makam lui-même. Il a composé une musique de cérémonie, etc. Donc on voit quand même rien que dans le personnage de Ahmed Ahmed Konouk, jusqu'au dernier, jusqu'à la fin de confrérie, les hommes qui étaient disciples de cette confrérie, c'était quand même des gens lettrés, les gens qui connaissaient plein de choses, qui connaissaient la théologie musulmane, ils connaissaient les œuvres de Rumi, ils avaient étudié, ils avaient lu la hagiographie, etc. Donc c'était quand même une richesse intellectuelle qui faisait que ces hommes avaient, c'était pas des ignares, mais en même temps ils vivaient ce qu'ils savaient. C'était pas un savoir comme ça pour prétendre savoir, parce que c'était pas leur profession de savoir. C'est savoir, c'était l'intérêt de leur personne. Donc, la musique est pareille. Et donc, on peut apprendre la musique, mais il faut que ça soit un intérêt pour l'homme que nous sommes. Donc, parce qu'il faut que cette musique fasse un effet d'abord à nous, pour qu'il puisse avoir un effet sur les autres.
Mais ces hommes-là, d'ailleurs, peut-être en voyant le spectacle que présente aujourd'hui le monde musulman, auraient été tout à fait horrifiés. Comment expliquez-vous qu'on ait basculé comme ça de quelque chose de si profondément spirituel et de si, je dirais, si en accord avec les lois de la vie à ce qu'on voit aujourd'hui? Et c'est ce spectacle que nous donne évidemment une infime minorité du monde musulman, mais qui a pris quand même le dessus sur le plan médiatique.
Vous savez, c'est une question très complexe. Moi, je ne pense pas que je sois à la hauteur de résoudre un tel problème. Mais effectivement, on voit, on constate que de plus en plus, on est en train de couler. Comme Rumi disait, le bien de ce monde, c'est comme l'océan, et nous sommes comme le bateau. Il faut que l'eau soit en dessous du bateau, parce que quand c'est dedans, le bateau coule. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le bateau est en train de couler. Ça, c'est, il n'y a pas de doute. On est en train de couler. Toute l'humanité, ce n'est pas le monde musulman. On coule ensemble. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est une image qui vient souvent dans l'enseignement de Tassawouf aussi. C'est-à-dire, il y a ce passage de Coran qui dit « Elesti bi rabbikum ». C'est-à-dire, est-ce que vous reconnaissez que je suis votre Seigneur? Et donc, nous, les esprits, on a répondu « Bali, oui ». Donc il y a eu une question et une réponse avec une confirmation. On sait que ceci est un engagement, un pari, comme des actes, c'est une promesse.
Un pacte.
Dieu et les hommes. Et qu'on ne savait pas à quoi ça nous engageait. Comme le Coran nous dit, on a proposé ça aux montagnes, ils ont eu peur, ils ont refusé par crainte, mais l'homme par ignorance, il a dit « Bali ». Donc on joue le jeu. Donc la vie de ce monde... Pour nous, ce n'est pas la conséquence d'un péché qu'Adam et Ève qu'ils ont commis, mais c'est plutôt une promesse qu'on a donnée dans l'ignorance et qui est éprouvée dans la vie de ce monde, une fois qu'on est incarné. Donc, cette épreuve devient de plus en plus difficile. Est-ce que c'était plus facile avant? Moi, je pense que si, c'était plus facile avant, parce que le monde matériel qui nous entoure aujourd'hui était quand même plus léger, même déjà à comparer avec notre enfance, où la Turquie était plus fermée, on n'était pas une société de consommation. On mangeait le soir que des pâtes avec du fromage, mais on était tranquille, les esprits étaient tranquilles, les gens avaient une certaine joie interne à partager entre eux, même dans la vie quotidienne, sans être soufis ou pas. Et il y avait quand même une certaine sagesse populaire que les gens avaient en eux. Il y avait une éthique quand même sociale qui faisait que les gens corrompus, on les voyait mal d'un œil mal, ils n'avaient pas place dans la société. Maintenant, tout s'est renversé. Les corrompus sont des maîtres de la société. On sait qu'ils sont corrompus, mais on est fiers de leur corruption, parce qu'ils sont très malins, n'est-ce pas? Et donc, on est souillé jusqu'au bout. Et dans cette situation, c'est vrai que l'épreuve devient de plus en plus grave, mais vous savez que pour que les roses poussent mieux, on met un peu de caca de vache. Au dégoût, ce qu'on dit.
Oui, le fumier nourrit la rose, en effet. Ça, c'est une image que Rumi emploie aussi.
Je dis ça plus vulgairement.
Oui, mais vous avez raison. Je voudrais, pour finir, que nous évoquions cette danse des derviches tourneurs qui, d'ailleurs, vous entoure dans dans cet appartement où nous sommes à Paris, puisqu'il y a des tableaux qui représentent ces derviches avec cette belle robe blanche en train de tourner. Il y a aussi des figurines qui les représentent, enfin. Et il y a même un tableau où on vous voit en train de jouer du ney pendant que les derviches dansent. Est-ce que, finalement, pour vous, dans votre vie, dans cet exil plein de fumier où nous avons à vivre, est-ce que cette musique, cette danse, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez vous-même pratiquée, la danse, mais en tout cas, cette musique, cette danse, ce tournoiement qui dit le désir, finalement, de la lumière, c'est quelque chose qui vous a aidé à traverser ces ténèbres, finalement, que vous ressentez quand même monter.
Mais avant, parce que c'est aussi une question qu'on a dû faire face souvent, parce qu'il ne s'agit pas d'une danse, il s'agit d'une conséquence d'une émotion qui est due à une écoute d'une sensibilité, qui demande une sensibilité à la musique, à la poésie, parce qu'il s'agit de poèmes de Rumi aussi, et qui est devenu évidemment une sorte de rituel très codifié, parce que là on dit pas allez je vais tourner, et puis comme ils font aujourd'hui beaucoup de gens qui font des spectacles à travers ça, ils tournent en mettant de musique qui n'ont rien à faire avec ça, et c'est une danse moderne, c'est encore une autre chose, mais là comme on dit en arabe c'est déjà vide, c'est-à-dire une invitation vejd, c'est, ça peut être traduit peut-être par extase ou une émotion débordante qu'on sait que Rumi l'avait d'une manière permanente. Alors, cette émotion, c'est quoi? Comment l'expliquer? Moi, je peux vous dire par une phrase de Hafez qui disait que si l'homme n'est pas un instant avec Dieu, il est certainement avec le shaitan, avec son nefs ou avec le diable, avec son satan. Donc, quelqu'un comme Rumi, peut-être il était tout le temps avec une conscience que nous n'avons pas. Parce que cette conscience, comme le Coran nous dit, Dieu est plus proche à vous que votre veine jugulaire, c'est ça. Et donc, cette conscience fait que un homme comme Rumi, il vivait dans une émotion. Une émotion qui pouvait se transformer en mouvement avec n'importe quoi. On sait, enfin, les gens disent que c'était le martèlement de bijoutier qui l'a mis en extase la première fois, ou qu'il entendait un marchand qui vendait tilki, ça veut dire le renard.
Et lui, marchand ambulant.
Oui, et lui, il a entendu dilku, en farsi, et il s'est mis à tourner. Donc, tout ça, ce sont des choses qui déclenchent un mouvement dû à une émotion permanente. Alors que dans le contexte de cérémonie, c'est toute une préparation. Parce qu'il y a, on récite le Coran, après on récite le Nat Sherif, donc le louange au prophète, après on écoute une longue improvisation de Ney, après il y a un prélude, ce qu'on appelle le Mukabala, dans le Sema. Mukabala, c'est confronter, faire face. Parce que je ne sais pas si vous avez vu une cérémonie à l'Enavstunner, qu'à un moment donné, enfin trois fois de suite, chaque participant au Sema, il se met face à face, il se regarde et puis il s'incline. Et ceci est justement à l'image de ce fait que Dieu a demandé aux anges de s'incliner devant Adam, que le Satan il a refusé parce qu'il a fait comparaison lui-même, entre lui-même et Adam. Et donc on considère que l'homme qui ne respecte pas un autre homme, il est pire que le Satan. Donc il est nécessaire que les gens qui font partie de cette cérémonie, ils s'inclinent, ils reconnaissent en eux un être humain. Et ceci trois fois de suite, qu'on appelle ce Devri Sultan Velet, parce que ça a été mis en place par Sultan Velet, qui est le fils de Rumi, qui a codifié cette cérémonie déjà à son temps. Et donc, et après, c'est le Sema qui commence, il y a plusieurs étapes, quatre étapes. C'est l'âme Evel, c'est l'âme Sani, etc. C'est l'âme Sani, c'est quatre fois on s'arrête et on recommence. Et donc, c'est codifié aussi musicalement. n'est-ce pas? Donc, on commence par une musique avec un cycle rythmique de 14 temps, après cela devient 9 temps, après ça devient 28, après ça devient 10, après 6, 8, etc. Donc c'est vraiment une forme musicale par excellence, et que les gens qui font les semas, ils les connaissent. Quand ils entendent les changements de cycle rythmique, ils savent que c'est les deuxièmes salutations, etc. Donc ça demande quand même, de la part des participants, non seulement une sensibilité à la musique, mais aussi une connaissance de la musique. Et aussi cette volonté de vejde, une sorte de transe, mais très contrôlée. Parce que le Tariqa Mevlevia, c'est le seul dans lequel les gens ne poussent pas des cris ou qu'ils ne font pas de folie, etc. Il n'y a pas d'excitation débordante. Alors que dans d'autres confréries, les gens, ils se laissent aller. Là, c'est vraiment très, très codifié. Donc, esthétiquement, c'est une beauté extraordinaire. Vraiment, c'est de le vivre, de le regarder ou de participer. C'est vraiment une beauté. Et moi, j'ai eu toujours le plaisir, une grande joie, une émotion de le faire en tant que danseur, parce que j'ai fait des semas aussi, et en tant que musicien aussi. Mais c'est une expérience qu'on ne peut pas vraiment on peut pas décrire. C'est quoi que c'est le problème d'aujourd'hui? Pour moi, la foi, c'est une jonction entre le monde inconnu et le monde connu. Et la foi, c'est la synthèse de cela. Donc ce qu'on appelle le métaphysique et le physique. Alors maintenant, on fait l'erreur d'expliquer le métaphysique par le langage physique. Donc moi, je ne peux pas vous décrire ce qui était l'émotion et les joies vécues de ça. Il est impossible, il faut les vivre.
Un très grand merci, vraiment, Ruti Erguner, de nous avoir reçus chez vous. On peut retrouver en fait tout ce cheminement que vous nous avez évoqué aujourd'hui dans un temps court. On peut le retrouver de manière bien développée dans un très très beau livre que vous avez écrit, La flûte des origines, un soufi d'Istanbul, publié chez Plon dans la collection Terre humaine. C'était Les Racines du Ciel, aujourd'hui avec Ruti Erguner dans le premier numéro de la série Grand Témoin. Dans un instant, nous retrouvons le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.